Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Ne lui parlez surtout pas, mais alors surtout pas de Wang, de Wissa ou de Payet. Il en fait des cauchemars depuis une semaine. Pourquoi ? Parce qu'après avoir perdu 5-0 le match à Lille, il en a encore pris 4 la semaine dernière face à moi. Et ses espoirs de titre à mon petit gazon se sont envolés. Terrible, terrible pour lui qui, bien que mal, a espéré. S'est accroché avec ses petits moyens, son petit niveau, son maigre talent. Mais le leader, moi donc, est intraitable et meilleur que lui tout simplement. Mais continue, tu y arriveras sans doute à un moment ou à un autre. Simplement, pour l'instant, l'élève ne dépasse pas le maître. Comment ça va, Maxime Dupuis ?
Ben écoute, ça va très bien, Martin. Alors, il y a deux choses. Il y a plein de choses sur ce que tu as dit. Déjà,
l'histoire t'as perdu.
Attends.
Un BG la semaine dernière, t'as perdu.
Toi, ça c'est... Toi, on parle des fois, les journalistes, ouais, nanana, la mauvaise foi, etc. Qu'est-ce que tu as dit que j'avais pris 4 buts ?
T'as pris 4 buts ?
Ouais. Tu dis pas combien j'en ai marqué ?
Oh, t'en as mis 3, mais t'as perdu quand même.
Donc déjà, c'est... Non. Mais oui, j'ai perdu, évidemment.
En plus,
j'ai pas eu de peau. Il y a eu des faits extérieurs au football qui ont fait que j'ai eu des joueurs qui sont sortis plus tôt. Enfin, un, du moins. Mais tu vois, mais c'est très... T'aurais pu dire, au moins, t'as gagné 4-3 d'un rien, tu vois.
Bah, j'ai gagné. Ah, mais c'est pas à toi que je vais apprendre que gagner 4-3 ou gagner 5-0, ça revient au même.
Après, quand tu dis le maître, du coup, parce que j'ai regardé la semaine dernière, quand j'ai dit que tu terminais dernier tout le temps, t'as quand même deux saisons de suite où tu termines dernier.
Ah ouais, mais là, je suis premier.
Donc, ouais, mais.
Voilà, non, mais.
Pas
voilà.
Champion pour l'instant.
On verra. Ah bah, on en reparlera la semaine dernière, ce sera l'objet d'une nouvelle Stream Team.
Oui, alors, et en revanche, il y avait un truc, on a dit, il y avait un gage, normalement.
Pour celui qui perdait ?
Ouais.
Bah, c'est quoi ton gage alors, moi,
tu m'avais proposé une petite fessée.
Oh bah si tu veux, moi tu sais, je suis toujours adepte de ça, hein, comme Pascal Duprat.
Hein. Écoute, on fera peut-être une spéciale.
Une spéciale fessée, ça m'irait très bien.
Mais en respectant les gestes barrières, évidemment.
Ouais, bah oui, bien sûr, une fessée à 1 mètre.
Ça va peut-être perdre un peu de son sel.
Un peu de son charme. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas, hein, après cette bonne petite introduction. On va évidemment d'abord démarrer par le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on va débriefer avec Maxime. Vous savez, le PSG est tombé contre le Bayern Munich. Ça ne pouvait pas être pire pour le Paris Saint-Germain. On y reviendra dans la première partie de cette émission. Ensuite, Maxime, on parlera de Karim Benzema.
Oui, on parlera de Karim Benzema avec la question suivante, parce que vous savez, Didier Deschamps a donné sa liste hier. Il n'y a pas eu de question sur Karim Benzema en conférence de presse. Ce n'est pas la première fois. On va tout de suite se calmer avec ça, parce que j'entendais qu'on n'en parlait plus, mais ça fait comme un certain temps qu'on en parle peu. Mais n'empêche que ça n'empêche pas de faire parler justement sur les réseaux sociaux. Et à chaque liste, évidemment, revient Benzema sur le tapis, surtout qu'en ce moment, il est encore très bon. Mais on va se poser la question suivante avec Martin. Est-ce que finalement, on ne loupe pas le meilleur de Benzema avec les Bleus, est-ce que c'est pas cet instant T-là qu'aurait été le meilleur de Benzema avec les Bleus ?
Et on terminera avec quoi ? Je me souviens plus. Mais si, bien sûr, on terminera avec Kylian Mbappé. Non, mais vous, je feins le trou de mémoire. Voilà,
la préparation. Un peu à cette... Non, parce que donner... bon, il fait ses équipes MPG pendant qu'il fait ses équipes MPG. Hein ? Voilà quoi.
Et au moins j'ai un succès. Tu vois, si l'émission ne marche pas, au moins je gagne à MPG. Donc on terminera avec Kylian Mbappé. On parlera de la saison de Kylian Mbappé qui en a 28 buts avec le PSG. Avec l'équipe de France, ça nous fait donc 31 buts. Et ben, on se demandera si sa saison, jusqu'ici tout du moins, est réussie. Vous me direz, on faudra attendre la fin pour assurer des trophées, etc. Mais on se posera la question, est-ce que Kylian Mbappé est dans les clous cette saison ? Voilà.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les trois sujets Maxime, je crois qu'on peut commencer avec la Ligue des Champions.
On va maintenant débriefer ce tirage au sort. Pour le Paris Saint-Germain, ça ne pouvait pas être pire, pour faire simple.
Bah, Maxime, c'est simple. Je me souviens d'une émission qu'on faisait il y a quelques semaines où on se posait la question, est-ce que le Bayern est une des meilleures équipes de l'histoire ? Donc c'est simple. Aujourd'hui, c'est ça à quoi va être confronté le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, c'est une équipe qui, je crois, reste sur 19 qualifications.
Ouais, c'est un record.
En quart de finale de la Ligue des Champions consécutive. Donc, c'est un record. On est sur le tenant du titre. On est sur large leader. Il y a encore un petit combat avec Leipzig, mais quand même sur un leader de Bundesliga. On est sur une machine. On est sur un effectif qui a très peu de blessés, en tout cas très peu de joueurs majeurs qui sont blessés, contrairement à Liverpool. On est sur une équipe qui gagne tous ses matchs. On est sur une équipe qui a été flamboyante en huitième de finale. Du moins, à l'aller, au retour, ils ont un petit peu géré. On est sur une équipe qui a des remplaçants qui sont largement, qui du moins ont largement le niveau Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Donc, on est sur une équipe qui, même s'il y a des quelques pépins d'ici, parce que les quarts ont lieu dans 3 semaines, c'est ça. Même s'il y a quelques petits pépins, il y a toujours des sécurités autour. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de points faibles à ce Bayern de Munich. J'en vois énormément du côté du Paris Saint-Germain, et pas seulement à cause de la défaite de Nantes. Un Paris Saint-Germain qui se repose beaucoup sur Mbappé et Neymar, ce n'est pas nouveau, mais qui ne dégage pas cette force collective qu'il aura en face de lui. Et enfin, et pour couronner le tout, s'il n'y avait que ça, mais il y a en plus cette finale. Donc il y a eu une opposition il n'y a pas si longtemps entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas globalement changé depuis. Eh ben, on est sur un Bayern qui a battu le PSG. Alors il y a eu des ouvertures, on pense à cette action de Mbappé, on pense à Neuer qui a été énorme. Enfin bon, un très grand gardien, ça compte aussi. Oui. Aujourd'hui, je ne vois pas d'angle d'attaque pour ce Paris Saint-Germain face à ce qui se fait mieux au monde et ce qui se fait mieux quasiment au 21e siècle. Donc, ça va être très, très dur pour le Paris Saint-Germain.
Non, et puis, je vais ajouter 2-3 trucs là-dessus. On parle du Bayern façon équipe qui est exceptionnelle, comme tu l'as dit. Il n'y a pas beaucoup de points faibles. C'est une équipe qui marche toujours, qui a gagné 6 titres avec Flick et qui est une machine absolue. Et on l'oublie presque parce que c'est le Bayern de Munich et on en parlait récemment. Bah, elle a sûrement aussi dans ses rangs le meilleur attaquant du monde aussi. Il ne faut pas l'oublier, Robert Lewandowski, qui devrait être Ballon d'Or, qui avait été récompensé par la rédaction d'Eurosport.
Et peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui.
Et peut-être le meilleur joueur du monde, exactement. Voilà. Donc, il y a en plus ça. Et lui, il ne ralentit pas du tout pour le coup. Et je pense qu'il a en ligne de mire aussi, bon, évidemment, l'Euro. Mais il a surtout en ligne de mire peut-être un Ballon d'Or qui n'aurait pas dû lui échapper s'il avait été attribué l'année dernière. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est une équipe, j'en ai parlé un petit peu avant le tirage, qui est une équipe qui a une résilience folle. Parce qu'on a des Bayern de Munich qui ont dominé de la tête et des épaules leur championnat d'Allemagne. Cette année, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a quand même un écart qui s'est creusé, un petit écart qui s'est creusé et qui nous fait penser que ça va aller au bout. Mais la différence, c'est que ce Bayern de Munich-là, il se trouve régulièrement mené au score. Il rate ses débuts de match à chaque fois. Enfin, à chaque fois, j'exagère. Mais il se retrouve mené, c'est presque une énigme de se dire comment il peut passer à côté. Mais à chaque fois, ça se termine comment ? Ben, ça se termine que le Bayern revient, reprend l'avantage. C'était le cas contre Dortmund notamment. Cette équipe est, ne doute pas. Psychologiquement, elle ne doute pas. Elle est sûre de ses forces et elle est exceptionnelle parce que c'est une équipe qui roule toute seule. Et puis, un dernier point. Alors ça, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Il y a quand même de fortes chances, enfin de fortes chances, je ne suis pas dans les petits papiers de la Fédération allemande, que Hansi Flick ne soit plus l'entraîneur du Bayern à la fin de cette saison. Parce que Hansi Flick, je pense qu'il est très attiré par la sélection allemande dont le poste va se libérer après l'Euro. Et il y a des petites frictions, on va dire, actuellement au Bayern Munich. Ce n'est pas avec les joueurs. Justement, ça c'est important, c'est que ça se passe toujours super bien avec les joueurs. Les joueurs l'adorent et lui adore ses joueurs. Mais avec la direction, voilà. Et on sent que lui, en reprenant l'équipe du Bayern il y a un an et demi, en gros, il a un peu gagné au loto. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une position qu'il aurait peut-être jamais dû avoir. Et il a su en faire quelque chose de magnifique et de se révéler en tant qu'entraîneur d'une grande équipe comme ça. Et je pense que le train de l'équipe d'Allemagne l'intéresse fortement. Et pour gagner, on va dire, en crédibilité, si tant est qu'il faille encore plus gagner en crédibilité, bah une fin de saison réussie serait pas mal. Et ce serait aussi l'occasion de marquer l'histoire à sa manière. Même si, on va le dire tout de suite, le Bayern dit non, mais il faudrait être fou pour lâcher Hansi Flick. Je pense que si demain, il a très envie d'y aller et que la sélection lui fait confiance, il ira. Donc je pense que c'est... Je ne mettrai pas ça forcément en avantage pour le Bayern, mais c'est un truc qui peut compter. Et voilà, et comme tu l'as dit, pour terminer, c'est vrai que les angles d'attaque, ils sont très compliqués. Voilà. Sinon, de dire, bah, les prendre à la gorge comme les autres adversaires savent le faire. Mais le problème, c'est que le marathon, il dure 180 minutes. Il ne faut pas seulement être bon sur les 20 premières minutes. Et surtout, si Paris doit apprendre quelque chose de sa finale de 2020, où Paris n'est pas ridicule, hein, faut pas, on ne va pas dire que le Bayern a surclassé, non, parce que Paris a des occasions. Mais il faut être réaliste, voilà, tout simplement. C'est des finales de Ligue des Champions. Il n'y a pas 50 occasions et Mbappé en a raté. Donc au moins, ils auront ça en tête. Ils savent que ça ne passera pas sans faire le match parfait et surtout sur 180 minutes pardon, ou plus.
On va... alors, je regardais Lewandowski, 39 buts en 32 matchs. Hein, en 35 matchs, pardon. Donc, ça fait un but toutes les 76 minutes. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'Hollande, Ronaldo, Mbappé. Il les regarde de très, très haut. Donc voilà, tu as le meilleur gardien du monde, tu as le meilleur attaquant du monde, tu as Kimmich qui peut jouer partout, qui est exceptionnel partout. Surtout, moi, ce qui me marque, c'est la profondeur. Après, si on se place du point de vue du Paris Saint-Germain, ce qui est intéressant dans cette double confrontation-là, Paris, depuis le début de saison, c'est quoi ? C'est quand même beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs. Si on prend les matchs contre Lille, Monaco, Lyon et les gros matchs de Ligue des Champions, Leipzig, Manchester et Barcelone. Je crois que sur ces matchs-là, tu n'as qu'une démonstration collective, c'est face à Barcelone. Tu n'as vraiment qu'un match où ils sont largement au-dessus. Ils s'en sortent à Manchester grâce à Neymar, un énorme Neymar, un très bon Marquinhos aussi. Et ça va être intéressant de voir. Et ce qu'il y a eu au Camp Nou, si tu réalises ça à deux reprises face au Bayern Munich, là, tu as peut-être un espoir. Là, tu as peut-être quelque chose. Voilà. Mais Paris, ce qui marque Paris depuis le début de saison, c'est l'inconstance. C'est de battre le Barça et derrière perdre contre Nantes. Là, ça va être deux quarts de finale à une semaine d'intervalle. Donc, ça va être deux gros matchs qu'il va falloir aligner à la suite. Est-ce que ce Paris en est capable ? Ça reste la grande interrogation. Jusqu'ici, la réponse, elle est non, parce qu'ils ne nous l'ont pas prouvé depuis le début de saison. Il y a un retour de Neymar dont on n'a pas parlé, qui est quand même capital. Mais il ne va pas falloir que du Neymar et du Mbappé, parce que si tu n'as que Neymar, Mbappé et même Navas face au Bayern, ça ne passe pas. Parce qu'au Bayern, tu as Neuer, tu as Lewandowski, certes, mais tu as tout le reste autour qui est au niveau. Bayern, c'est ce modèle que Paris devrait atteindre, mais qui n'arrive pas à atteindre.
Mais en plus, comme tu dis, si c'est du Mbappé et du Neymar, c'est le pari de Tourelle, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire qu'on leur donne le ballon et débrouillez-vous avec ça, faites-en quelque chose de bien. Voilà. Et là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire face au Bayern Munich, parce que comme tu l'as dit, c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe complètement pleine. Et tu as parlé des... Alors, pour être honnête, je ne me souviens pas quel est le match qui va être entre l'aller et le retour pour le Paris Saint-Germain en championnat. Mais une chose est sûre, celui d'avant, c'est PSG-Lille. Donc, Paris se retrouve quand même, après la reprise internationale, il se retrouve quand même avec un enchaînement PSG-Lille-Bayern. Alors, évidemment, Lille n'est pas du même calibre, mais n'empêche que Lille, aujourd'hui, est leader du championnat de France. Et Lille est une équipe qui ne cache pas ses ambitions d'aller gagner le championnat de France.
Alors, ce sera... un déplacement à Strasbourg. Ça ne rappelle pas forcément de bons souvenirs. Strasbourg à Neymar.
Les déplacements. Et puis oui, même les déplacements à Strasbourg sont souvent compliqués. Bon, bah, évidemment, on le répète, c'est des situations un peu différentes. Mais c'est vrai que Paris, en plus, ne pourra sûrement pas décemment lever le pied entre deux matchs parce que Paris n'a pas 15 points d'avance. Et s'il ne veut pas le perdre le championnat, va falloir s'accrocher aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est, on le répète, c'est le pire tirage, mais c'est aussi un tirage excitant. Voilà. Et encore une fois, on parlait du tableau, on l'a dit, demi-finale, ce serait le vainqueur de City-Dortmund. Voilà, ça est un tableau qui est aux antipodes de celui de l'année dernière, où on le répète, il y avait trois équipes en face, c'était l'Atalanta, l'Atlético Madrid, qui aurait été le pire adversaire, mais qui s'est fait sortir en quart par Leipzig. Et évidemment, il y avait cette finale derrière avec le Bayern Munich qui était...
Et Maxime, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai une question pour toi. Si Paris sort ce Bayern en quart de finale, cette Ligue des Champions, dans le contexte actuel, ce qu'est le Bayern aujourd'hui, est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire du Paris Saint-Germain ?
Non, mais il faut voir les matchs, c'est toujours pareil. Voilà. Et c'est sûr que si c'est.
Mais épique, en tout cas, sortir grande équipe-là.
La question se poserait, c'est sûr. On parle évidemment, quand on parle exploit et grande soirée du Paris Saint-Germain, on pense évidemment notamment au PSG Real de 93, voilà, mais c'est pas la même position et ce Real-là n'avait pas la puissance du PSG, mais le PSG non plus n'avait pas cette puissance-là. Mais c'est vrai que redevenir de 3-1 à 4-1, ça disait quelque chose du Paris Saint-Germain. Oui, ce serait un énorme exploit, sûrement plus gros notamment que battre le Barça de 95 de Cruyff, parce que c'était un Barça qui était déjà sur la pente descendante. Peut-être que le Bayern, dans deux mois, on dira finalement, était sur la pente descendante, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se dessine. Donc, en effet, ce serait un exploit immense parce que sur deux matchs en plus. C'est ça qui est difficile.
Et ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, c'est un exploit que n'a jamais réalisé le PSG sous QSI. Ils n'ont jamais sorti une équipe aussi forte, aussi cohérente. Et voilà, ils ont créé quelques exploits. On pense à Chelsea notamment, ou des matchs comme ça. Mais sortir une équipe de ce calibre-là, le PSG de QSI ne l'a jamais fait. Donc, ils sont confrontés à un défi immense.
Je suis toujours pas loin de penser que leurs plus grandes prestations européennes, peut-être pas plus grandes prestations, mais là où ils sont passés près de sortir un énorme club, c'était le Barça en 2013. Souvenez-vous du match retour avec Pastore, Messi, où là, vraiment, ils avaient regardé les yeux dans les yeux, et là, il y avait des regrets. Voilà. Souvent, ça a été des occasions ratées face à des clubs, en plus, pour le coup, qui n'étaient pas forcément toujours au-dessus. On pense à Chelsea, on pense à Manchester City. Donc oui, en effet, ça ressemblerait à un gros coup de poing sur la table, mais ce serait vraiment l'énorme coup de poing sur la table, parce que sortir des tenants du titre, déjà, même dans l'histoire du football français, j'en vois un qui me vient à l'esprit, Marseille en 91 contre l'AC Milan. Ça ressemblerait un peu à ça, AC Milan qui était double tenant du titre. On ne serait pas loin de ce calibrage-là, de sortir le Bayern au même stade de la compétition. On va vous montrer le tableau final, parce que ça, c'est important. Ce sera la suite de la discussion. On va vous faire tout à l'heure nos pronos, mais on ne va quand même pas vous parler des autres matchs. On a donc Bayern Munich-PSG et Manchester City-Dortmund qui sont dans la même partie de tableau. Vous voyez, hop, voilà, les deux parties de tableau sont là parce qu'elles ont été aussi tirées. Et évidemment, le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain affrontera le vainqueur de Manchester City-Dortmund. Donc, c'est vraiment l'Everest par la face nord. Alors, je ne sais pas si c'est la plus pentue, mais en tout cas, c'est la face nord. Donc, on partira du principe que c'est plus dur que le sud. Real Madrid-Liverpool de l'autre côté et Porto-Chelsea. Donc, voilà. On l'a dit, Martin, je pense que c'est quand même deux tableaux qui sont quand même globalement équilibrés. Ce n'est pas aussi déséquilibré que l'année dernière.
Non, c'est deux parties de tableau équilibré dans la mesure où tu as Dortmund et Porto qui sont pas ensemble dans la même partie de tableau. Après, tu as quand même le Bayern et City qui peuvent s'affronter en demi-finale. Ça resterait un gros choc. Mais aussi, pourquoi, Maxime? C'est parce que ces cartes finales, ils sont un peu plus relevés que ceux de l'année dernière, parce qu'on l'a dit aussi, tous les premiers de groupe sont passés, sauf la Juventus. La Juve est finalement la seule qui manque à l'appel parmi les premiers de groupe. Donc, on a finalement beaucoup de gros bras. Donc, fatalement, c'est un tableau qui est relativement équilibré. Si tu as une demi, ça peut donner quoi de l'autre côté? Ça peut donner Real-Chelsea, par exemple. C'est vrai que c'est très costaud. Ou Liverpool-Chelsea, c'est vrai que c'est très costaud. Donc, quoi qu'il en soit, on aura du lourd. Parce que Porto face à Chelsea, ça va être compliqué. Alors, Dortmund face à Manchester City, là, j'en parle même pas.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans une année, la fameuse année Covid, où justement, les cartes sont rebattues. Et en Ligue des Champions, à l'arrivée, on va se retrouver quasiment avec les équipes globalement qu'on attendait. Évidemment, il manque la Juve, donc sur les hauteurs, ça a tendance à revenir à la logique. Si tu veux bien, Martin, on va faire nos paris, pronos. Des paris que des pronos, parce que, évidemment, pour un quart de finale, déjà, c'est difficile, mais alors pour des demi-finales qui sont dans presque un mois, c'est compliqué, mais on va quand même s'amuser à faire ça. Et si tu veux bien, Martin, comme on est les rois du suspense, on ne va pas commencer par le premier match, on va commencer par en bas.
Mais bien sûr.
Parce que sinon, vas-y. Si jamais il y avait une mauvaise nouvelle d'entrée, au Paris Saint-Germain, on perdrait sûrement tout le monde. Donc on va mettre ça pour la fin, le temps de réfléchir aussi, de bien peser le pour et le contre. Et on va commencer par le... Alors je ne sais pas si c'est le plus déséquilibré, mais ça fait partie des deux plus déséquilibrés. Porto-Chelsea, Martin, ton avis?
Moi, encore une fois, je l'avais dit au début de cette émission, je pense que Porto sera difficile quand même à déloger. Et on est sur une équipe... Et puis, après, Chelsea, ce n'est pas une équipe qui se livre sous Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il a su remettre en place cette équipe de Chelsea, lui remettre les idées en place et constituer un bloc très solide. Donc, on va être quand même sur une opposition de deux équipes qui pourraient se ressembler. Après, je pense qu'il y a plus de talent du côté de Chelsea, et dans ces cas-là, c'est ce qui fait souvent la différence. On est aussi sur une équipe de Chelsea, alors on verra dans un mois. Après, il y a une trêve internationale qui est énorme, donc mais on est quand même sur une dynamique de Chelsea qui est hyper intéressante. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué pour cette équipe de Porto. Je vois Chelsea passer, mais d'une courte tête, pas aussi facilement qu'on pourrait le croire.
Je suis d'accord avec toi, je pense que Chelsea est dans le bon mood, on va dire, ça se passe bien. Je pense que Thomas Tuchel, comme on le pressentait quand il a signé à Chelsea, il se retrouve, je pense, dans un club qui est calibré pour lui, c'est-à-dire que ce n'est pas l'effectif de star du Paris Saint-Germain, qui sont parfois plus compliqués à gérer, certainement. Ce n'est pas Dortmund, il est dans le bon équilibre, où son gegenpressing, tout ce qu'on veut, ça marche mieux parce que les joueurs adhèrent beaucoup plus. Donc je suis d'accord avec toi, on va mettre un avantage à Chelsea, qu'on voit bien donc en demi-finale. Mais en demi-finale, face à qui ? Face au Real Madrid ou à Liverpool, selon toi ?
Alors, pour avoir vu ce que je disais aussi tout à l'heure, les deux matchs du Real en huitième de finale de la Ligue des Champions, ce Real en Ligue des Champions, ce n'est pas le Real de la Liga. Et si tout le monde est là, et quand je dis tout le monde, je parle de la colonne vertébrale Varane Ramos, Casemiro, Kroos, Modric et devant Benzema, si ces mecs-là sont là, ce sera très compliqué pour Liverpool parce que, on l'a vu dans les déclarations d'après-match, ils étaient piqués. Ils étaient piqués qu'on les prenne pour des vieillards, qu'on les prenne pour une équipe finie. Et Zidane, pareil, il était piqué, lui. Et je pense que l'orgueil de ces champions-là va les mener assez loin. Ils sont moins bien entourés qu'avant. Et il n'y a pas Ronaldo, hein. La place, c'est Vinicius. Ce n'est pas tout à fait le même topo. Mais je pense que face à Liverpool, qui pour le coup, alors ce n'est pas des vieillards, mais me semble quand même une équipe où quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. Il y a, je crois, 9 défaites lors des 17 derniers matchs. Et il me semble quand même que cette équipe de Liverpool me semble en fin de cycle. On est de toute façon sur deux équipes qui sont en fin de cycle, c'est clair, deux équipes en fin de cycle. Mais il y a plus d'envie du côté du Real. Je mets le Real sur ce quart-là.
Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que je pense que le calcul, enfin, c'est plus un calcul parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils sont complètement écroulés depuis on va dire, les fêtes de Noël, Liverpool. Souvenez-vous qu'ils étaient en tête largement du championnat d'Angleterre. Et finalement, la Ligue des Champions, elle s'éloigne via le championnat. Ils sont sixième. Surtout que le quatrième est Chelsea qui marche très vite. Alors évidemment, les équilibres et les formes peuvent s'inverser. Mais quand même, je pense que Liverpool a pris trop de retard. Et l'argument de penser qu'en étant autant largué en championnat, on puisse à côté avoir une seconde vie en Ligue des Champions, ça me paraît difficile, voilà, tout simplement. De devoir remettre l'accélérateur en Ligue des Champions, surtout sur des matchs de haut niveau. C'est un peu comme, vous savez, quand on disait le Bayern, je me souviens, le Bayern de Guardiola, une fois qu'il était sacré en février, on se dit oh là là, ils vont pouvoir préparer la C1. Non, c'est pas vrai, c'est compliqué de gérer les deux. Et puis Liverpool, il y a les blessures, tout simplement, Van Dijk, Gomez, tout ça. Ils sont complètement minés depuis le début de la saison. Donc je pense aussi, comme toi, que le Real, avec son côté survivor, Liverpool a un peu ça aussi, mais le Real, c'est le côté survivor à l'extrême. Donc je pense aussi, comme toi, qu'on devrait avoir... Donc ça s'efface, mais je vais le remettre. Hop, un petit. Je vais mettre les trois lettres Chelsea. Et là, le Real Madrid en demi-finale, ce qui ferait une demi-finale qui est plutôt pas mal sur le papier et assez hauteur. C'est de l'inédit. Donc moi, je prends personnellement. La troisième demi-finale, c'est Manchester City-Dortmund. Là, on va être assez d'accord, j'imagine, Martin. Manchester City, 24 victoires sur les 25 derniers matchs. Oui. A priori.
Mais surtout, on est Dortmund-City. Dortmund, contrairement à Porto, ne s'est pas fermé. Dortmund ne vit que par l'avant, que par. Et alors, il y a un joueur qui est absolument exceptionnel, qui est dans une forme incroyable. On en a suffisamment parlé, c'est Erling Haaland. Mais derrière, alors ouais, il y a Reus qui est pas mal, mais Sancho, c'est un peu moins bon. Derrière, c'est un peu compliqué. Et puis, face à Manchester City, ça ne passera pas. Pour moi, on est vraiment sur le quart le plus déséquilibré. J'aime beaucoup cette équipe de Dortmund, mais là aussi, Maxime, il y a beaucoup de retard en championnat. Je crois qu'ils sont cinquièmes. Ouais. Ils ont beaucoup de points de retard sur le Bayern Munich. J'y crois pas. Je crois qu'ils sont à 16 points du Bayern. Ils ont perdu contre Fribourg, contre Gladbach, contre Leverkusen. Non, j'y crois pas. Je crois pas du tout à Dortmund. Et là, pour le coup, je vois une qualification assez facile de City.
Tu avais bien préparé, hein, je vois ça, avec tous les adversaires de Dortmund.
Maxime, tu connais mon professionnalisme.
Eh oui, que je loue suffisamment souvent.
Depuis 3 semaines.
Eh oui, je vois ça.
Je suis depuis 3 semaines.
Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, honnêtement, parce que voilà, Manchester City, on l'a dit tout à l'heure.
Parce que c'était brillant.
C'est brillant et c'est une équipe qui finalement a un peu ramé au début de saison. C'est l'inverse de Liverpool et qui se retrouve au bon moment. Alors, le rythme d'aujourd'hui, ils ne le tiendront pas jusqu'à la fin de saison, je serais quand même très étonné. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui va bien aujourd'hui dans cette équipe de City. et qui n'est pas... On aurait pu penser qu'il y avait une forme de fin de cycle l'année dernière, notamment avec Guardiola. Il y a eu prolongation. Il est plus revigoré que jamais. Donc oui, en effet, je pense qu'on peut mettre Manchester City. Manchester City qui affronterait donc en demi-finale, dans une hypothétique demi-finale, le vainqueur de Bayern PSG. Alors là, c'est la patate chaude, Martin. C'est de savoir.
Bah non.
C'est compliqué.
On l'a dit un peu. Ouais, mais on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Moi, ce Bayern, je lui vois pas de point faible et ça fait pas un mois, une semaine ou ça fait un an que ça dure. Depuis qu'Hansi Flick a pris les rênes, on les sent animés d'une force collective absolument incroyable. Et encore une fois, je vois pas d'angle d'attaque. Je vois pas de faille, je vois pas de points sur lesquels Paris pourrait insister. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est régulier en Ligue des Champions, c'est régulier en championnat, c'est régulier quand les titulaires sont laissés au repos, quand tu fais un petit peu tourner. Il y a un effectif qui est absolument incroyable, parce que tu peux te dire s'il y a une hécatombe, mais même s'il y a une hécatombe, alors bien sûr, Simon Lewandowski, ce n'est pas le même Bayern, mais malgré tout. Et puis, en miroir, Paris, l'irrégularité de Paris, c'est un vrai obstacle dans ce quart de finale. Le seul espoir, c'est que Neymar revienne. Voilà, donc Neymar revient là, il y a un vrai espoir. Mais il restera Kurzawa à gauche. Il restera Florenzi à droite. La recette pour Paris, c'est de faire le Camp Nou x2. Et pour l'instant, ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient faire le Camp Nou x2, c'est-à-dire une telle prestation collective absolument aboutie et sans fausse note. Donc, je vois le Bayern.
Alors, c'est le Camp Nou x2 et se rappeler de Lisbonne. Souvenez-vous, moi, ça m'a marqué en début de deuxième période, notamment. C'était à l'expérience, ces Bavarois. Ils ont commencé, ils mettaient les petits coups qu'il faut. Là, c'était toute la différence entre une équipe qui est habituée ou qui a cette culture de la finale, évidemment, de C1, et Paris qui... il a manqué à Paris tout ce qui fait finalement un champion d'Europe, c'est-à-dire pas de la réussite, mais de l'efficacité, parce que ça, c'est indispensable. Et aussi, le petit... C'est pas du vice, hein, mais souvenez les petits coups sur Neymar qui vont bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour arrêter le jeu, tous les moments un peu chauds. Voilà, Paris a été peut-être un peu joueur. Il a cru que ça pouvait passer avec ses qualités propres, on va dire. Et face à ce Bayern-là, ça ne passe pas. Et ça ne passe toujours pas cette année pour les autres adversaires. Donc oui, je suis un peu d'accord avec toi, Martin. Ça va pas être bien vu, mais je pense qu'on va mettre quand même l'avantage au Bayern Munich qui irait donc en demi-finale et affronterait donc City. Hop. Donc, on aurait des demi-finales avec deux clubs anglais, un club allemand, un club espagnol, et avec un seul club qui n'a jamais gagné la C1. Et la question serait de savoir, est-ce que cette équipe de City, selon toi, peut éliminer ce Bayern-là?
Moi, je pense... une nouvelle fois, Bon, là, ce serait la finale avant l'heure, sur les deux équipes qui sont les plus impressionnantes à la fois en Europe et en championnat. Mais très honnêtement, je ne vois pas comment éliminer ce Bayern Munich. C'est une telle force collective depuis un an, hein, une nouvelle fois. C'est dans toutes les compétitions, puisqu'ils les gagnent toutes. Moi, je vois ce Bayern inattaquable. Je vois encore peut-être, et c'est Pep Guardiola qui le disait en conférence de presse, après la qualification de City, qui disait « Ouais, mais quand on va affronter des très très gros, on s'expose quand même. » Voilà. Le Bayern, ce n'est pas le cas. Donc, je vois encore un avantage pour le Bayern dans cette demi-finale face à Guardiola. Moi, et puis, il y a l'expérience.
Voilà. Ouais, je suis un peu plus partagé parce que, justement, d'ailleurs, ça me ferait un Zidane-Guardiola, ce serait pas mal. C'est pour la finale, j'ai une bêtise.
Tu vois déjà
en finale. Oui, j'étais déjà en train de penser à la finale. Voilà. Mais je suis un peu plus partagé parce que je sens bien City cette année, voilà, tout simplement. Je pense qu'ils sont dans le bon rythme actuellement. Ils se sont retrouvés au bon moment où il fallait. Et aujourd'hui, j'ai du mal à voir beaucoup de failles à cette équipe qui roule parfaitement. Et encore une fois, moi, je donne beaucoup d'importance au championnat d'Angleterre. Quand on est capable de rouler sur le championnat d'Angleterre, c'est qu'on est capable, au niveau de l'intensité et tout, de bien fonctionner. Voilà.
Comment on fait, là, quand on n'est pas d'accord?
C'est une bonne question. Alors,
on joue à pied ou face?
On ne va pas tirer à pile ou face, mais est-ce que
mais
je demanderais pas...
Mais comme c'est toi qui écris, c'est toi qui décides.
Ouais, mais je suis sympa, donc je vais te mettre le Bayern de Munich. Et comme ça, quand City sera en finale, je te rappellerai que j'avais raison. Et on ressortira la séquence. On fait comme ça?
Si tu veux.
Allez, on envoie le Bayern en finale. Tac, voilà, hop. Et de l'autre côté, justement, Real Madrid-Chelsea. Alors, demi-finale... on dirait, assez inattendu en début de saison, mais demi-finale qui aurait plutôt de la gueule, Martin.
Ouais, mais bah, pour les mêmes arguments que mon huitième de finale, je mettrais quand même le Real à l'expérience. Quand t'as un Benzema de ce niveau-là, quand t'as un Modric de ce niveau-là, il faut voir le match de Modric, le retour, là. C'était mardi, il me semble. Et là, t'as l'impression qu'il a retrouvé ses jambes de 2016, de 2017, de 2018. Ce Real-là, oui, moi je le vois aller en finale. Je le vois aller en finale. S'il n'affronte ni le Bayern ni City face à lui, moi je mets une pièce sur le Real Madrid dans cette partie de tableau-là, en tout cas.
Je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Je pense qu'il y a la part expérience face à cette équipe-là. Chelsea, je pense que c'est un ton en dessous, tout simplement. Et je pense que l'odeur, des fois, certains sont attirés par l'odeur du sang. Eux, c'est l'odeur de la C1 et l'odeur de la victoire. Et je pense que cette équipe-là va être de plus en plus redoutable à mesure que passent les tours. Parce qu'on a eu récemment Raphaël Varane en interview. Et on lui a posé la question suivante. En championnat, vous savez que c'est perdu ou pas loin. Est-ce que vous pourriez faire all-in sur la Ligue des Champions? Parce qu'on lui a dit, vous savez faire. Et il a souri. Il a souri en disant « Oui, on sait faire ». Alors, il a dit évidemment qu'il ne ferait pas ça parce qu'on n'accepte pas de lâcher une compétition, surtout quand ils étaient encore dans le coup et que ce n'est pas non plus perdu complètement. Mais n'empêche que voilà, ils savent faire, c'est la même structure. Je pense qu'il y a des raisons d'y croire et ce serait quand même un accomplissement incroyable d'arriver en finale avec cette équipe qui n'est pas aussi forte que celle qui en a gagné 3 de suite. Notamment parce que Ronaldo était parti et parce que Hazard n'a pas pris la suite.
Et dernière chose, c'est peut-être le champ du cygne de cette équipe-là, parce qu'on sait qu'elle va être démantelée à un moment ou à un autre. On parle beaucoup de l'été qui vient avec Hollande ou Mbappé. Donc je pense qu'il y a aussi quelque part Ramos est en fin de contrat. Il y a peut-être un petit pacte entre ces mecs-là de se dire là, c'est peut-être la dernière dans l'équipe telle qu'on la connaît, bon, moins Ronaldo. Effectivement, Hazard n'est pas là et ne sera sans doute pas là. Mais il y a peut-être ce défi entre eux de se dire OK, on va peut-être tout chambouler cet été. Peut-être qu'on va tout changer. Là, c'est la dernière. On va leur montrer. On va leur montrer qu'on peut aller au bout. Et moi, je crois que c'est leur grande force au Real. Je pense que c'est leur grande force. Donc, petite finale Bayern-Real, Maxime.
Petite finale Bayern-Real, ça, ce serait quand même plutôt pas mal sur le papier. Difficile de faire beaucoup plus prestigieux entre la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, ses 13 victoires, la meilleure équipe du XXe siècle, et en face, la meilleure équipe du moment, le Bayern Munich. Ce serait plutôt pas mal sur le papier, Flick versus Zidane, Benzema versus Lewandowski. Mais je pense que, alors même si j'ai hésité pour les demi-finales, je pense que je mettrais quand même une petite avance, un petit avantage au Bayern Munich, pour toutes les raisons qu'on répète depuis le début, c'est-à-dire cette machine. Voilà,
un moment, on ne va pas se répéter. Hein. Voilà.
Ouais, à un moment, on en arrive. Alors, pour les raisons qu'on a données pour le Real, le côté survivor, le côté on sait faire le all-in sur une Ligue des Champions, ça marche extraordinairement bien, mais à un moment, si le Bayern se retrouve en finale et que c'est le Bayern qu'on voit depuis le début, je pense que le Bayern a une petite marge. Encore une fois, on en est loin, c'est le 29 mai, imaginez, on en est quand même très loin. On ne sait pas qui sera là et qui ne sera pas là. On ne sait même pas si nos pronos seront bons jusque-là, mais le Bayern Munich est plutôt bien placé pour se succéder à lui-même et empêcher le Real d'aller en chercher une 14e.
Ah, je ne vais rien rajouter. On a déjà beaucoup parlé du Bayern de toute façon dans cette émission. Donc, encore une fois, je ne vois pas de point faible. Donc, je ne vois pas une équipe capable de battre le Bayern aujourd'hui.
Voilà, je vais aller mettre
donc,
le
vainqueur,
dernier,
Bayern Munich.
Le point final qui serait donc…
Voilà, parce que, du coup, ça ne sert à rien de regarder les matchs parce que voilà. Vous avez tout sous les yeux.
On va s'éloigner un petit peu de la Ligue des Champions, enfin à peine, puisqu'il va être aussi question de l'équipe de France. On va parler maintenant de Karim Benzema. Vous le savez, il n'est plus appelé en équipe de France depuis… la fin de l'année 2015 et aller faire de la sextape. Tant que Didier Deschamps sera là, il ne sera pas rappelé, c'est assez clair. Alors, on fait toujours un peu semblant de ne pas savoir pourquoi. On sait très bien pourquoi. C'est les affaires extrasportives qui ont éloigné Karim Benzema de l'équipe de France. On peut le regretter ou non. Et on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper finalement le meilleur de Benzema avec l'équipe de France? Il est excellent avec le Real Madrid et bien au-delà. Est-ce que finalement, il n'y a pas un énorme regret de ne pas voir ce joueur-là à son âge avec l'équipe de France, Martin? Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai deux réponses. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est un des trois meilleurs avant-centres du monde, je pense. Donc oui, il y a un regret énorme, immense, de ne pas avoir ce joueur-là à la pointe de l'équipe de France. Parce que sans doute qu'il ne ferait pas de mal à cette équipe de France. Il lui ferait même peut-être du bien. Je pense qu'un trio Mbappé, Griezmann, Benzema, ça fonctionnerait. Griezmann, Benzema, je crois que la dernière sélection de Benzema, donc c'était face à l'Arménie où il marque un doublé, il y a Griezmann dans l'équipe et ça se passe très très bien. De toute façon, en règle générale, ça se passe toujours assez bien avec Antoine Griezmann qui sait très bien se servir de ses coéquipiers les plus talentueux pour sublimer leur talent. Donc je me dis qu'un Griezmann, Benzema notamment, ça marcherait très bien, je pense qu'avec Mbappé aussi. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de rater le meilleur de Benzema? Ça, j'en suis moins persuadé parce qu'il faut se souvenir de sa saison 2013-2014, notamment avec le Real Madrid, où il est aussi monstrueux. Alors peut-être qu'on le voit un peu moins parce qu'il y a Ronaldo, donc peut-être que le Real est un peu moins dépendant de Benzema. Malgré tout, il est énorme. Il est sans doute aussi énorme qu'aujourd'hui. Et il fait une Coupe du Monde 2014 que je qualifierais de moyenne. Il fait un super premier tour, deux premiers matchs très très bons face au Honduras et face à la Suisse, et après le huitième face au Nigeria et le quart face à l'Allemagne. Il se rate dans les grandes largeurs et globalement cette saison-là, bon. Donc est-ce qu'un Benzema aussi bon qu'aujourd'hui ferait un bien fou à l'équipe de France, transformerait l'équipe de France? J'ai pas la réponse. Parce qu'on a vu déjà un grand Benzema en club et qui n'était pas forcément, qui a pas métamorphosé l'équipe de France. Voilà.
Moi, je pense que de toute façon, on a raté Benzema globalement.
C'est ça.
C'est-à-dire que
oui, oui, t'as raison.
81 sélections, ça vous classe un personnage. Il est à une sélection d'Amoros qui a eu le record pendant de nombreuses années. 27 buts. Alors évidemment, on ne va pas seulement compter sa réussite au nombre de buts, mais n'empêche que pour un avant-centre, c'est important. Et je trouve qu'on l'a raté, tout simplement, Benzema, parce que vous prenez ces tournois internationaux. Il a joué l'Euro 2008, il était jeune, il y avait Henry, il y avait Gomis qui arrivait, ça fait zéro but, à la rigueur. 2010, il n'est pas là, là pour coup, tant mieux pour lui. 2012, il est là, et souvenez-vous, 2012, il arrive avec un discours très offensif, je viens pour tout casser. Je me souviens de la conférence de presse pré-tournoi, c'est-à-dire peut-être deux jours avant le premier match, de l'Euro face à l'Angleterre, il est hyper offensif et on sent que ça va marcher parce que juste avant, en amical, il s'est débloqué face à l'Estonie, il a mis un doublé, il n'avait pas marqué depuis longtemps et on se dit c'est bon. À l'arrivée, zéro but. Alors il y a toujours eu l'argument de dire ouais, mais il n'était pas aussi bien entouré, je ne suis pas tellement d'accord, et surtout c'est un argument à double tranchant parce que c'est aussi à lui de tirer les autres vers le bas, parce qu'il est clairement...
Il y avait clairement... du Ribéry, il y avait du Griezmann en 2014.
L'Euro, il y a... C'est Ménès, mais qui n'est pas mauvais. Il y a Nasri autour de lui. Il y a Ben Arfa qui est là. C'est vrai qu'avec le recul, on peut dire oui, mais alors, ça n'a pas donné. Mais il y a quand même Ribéry. Et je trouve que Ribéry-Benzema, ça valait déjà quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a la Coupe du Monde 2014. C'est une Coupe du Monde qui démarre très bien, en effet. Il y a trois buts sur deux matchs. Et puis après, bah, il s'éteint petit à petit. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un rendez-vous raté. C'est malheureux parce que. En fait, Benzema, il a été très cyclique en équipe de France. Début blanc, c'est pas mal. Et puis après, il y a un creux entre mars 2011 et donc le match de juin 2012, juste avant l'Euro, où il ne marque pas un but. Et puis après, il y a l'Euro, ça ne marque pas. Et puis après, au début de Deschamps, ça ne marche pas non plus. Et j'ai regardé, parce que je voulais voir un peu, il fait quand même 27 sélections avec 3 buts seulement. Ça, c'est énorme pour un avant-centre.
C'est les 27 dernières, non?
Non, c'est celle du milieu. C'est-à-dire avant la saison 2013-2014.
Parce qu'il me semble qu'entre sa dernière sélection et l'année d'avant,
il y a encore un énorme creux. Voilà. Donc en fait, il a toujours été très cyclique en équipe de France. Et tu l'as dit, il y a cette année 2013-2014. Moi, pour moi, voilà, je le dis, il y a deux bonnes phases, on va dire au moins statistiques. C'est début blanc, quand il est reconstruit et qu'on sent qu'il y a un nouveau truc avec Valbuena notamment le match de Wembley, ces matchs-là qui marquent le coup. Il y a Deschamps au bout d'un moment, vers le barrage et tout ce qui va constituer, on va dire, la montée en puissance vers la Coupe du Monde et le début de la Coupe du Monde. Et puis après, il y a encore un trou et c'est très cyclique. Et après, bon, il y a toujours le procès qu'on fait à Deschamps de dire, il l'a écarté. N'empêche que pendant ce temps-là, il fallait le défendre. Il avait son talent qui parlait pour lui et ses promesses, c'est ce qu'il faisait au Real. Mais n'empêche que Deschamps a tenu bon là-dessus. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un rendez-vous quand même raté avec l'histoire. Après, il y a évidemment son éviction de l'équipe de France pour les raisons qu'on sait. Et je pense que je ne suis pas sûr que ça aurait marché sur le terrain avec la philosophie de Deschamps, tout simplement, parce qu'on ne va pas revenir sur l'équipe de France comme elle a gagné la Coupe du Monde, avec un avant-centre qui est aussi un premier défenseur. Je ne suis pas sûr que...
Et un avant-centre de surface, pour le coup.
Ouais, je ne suis pas certain que... Et souvenez-vous, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pendant l'Euro 2012, ce qui lui est reproché, c'est qu'il recule beaucoup, il va beaucoup chercher les ballons, ce qui fait qu'on se retrouve avec des joueurs comme Ribéry, Benzema, Nasri, qui évoluent quasiment dans la même zone. Et du coup, dans la surface, il n'y a pas de poids. Alors oui, Giroud n'a pas marqué de but, on le sait, on l'a répété suffisamment, mais n'empêche que ce profil-là était indispensable pour libérer justement les espaces aussi pour des Griezmann, pour des Mbappé. Et je ne sais pas si ça aurait fonctionné sur le terrain si les trois ne se seraient pas marchés sur les pieds. Mais ça, c'est une chose, on ne pourra pas le vérifier.
Ouais.
Maintenant, ce que je vais peut-être regretter aujourd'hui de ne pas avoir Benzema, c'est ça m'a marqué la semaine dernière quand il est allé en conférence de presse avant le match du Real, et il a parlé de Haaland. Et j'ai bien aimé son discours de dire... En gros, Benzema, maintenant, c'est devenu le grand frère. Il a 34 ans, on sait qu'il est plus proche de la fin que du début. Ça ne l'empêche pas d'être performant, mais il a dit ça. Il a dit à Haaland, s'il peut venir, en gros, moi, je l'accueille et en gros, je l'aiderai à devenir quelqu'un au Real. Et ben, j'aime bien ce discours-là. Voilà. C'est aujourd'hui, je le regretterais peut-être pour ça, sur la place peut-être qu'il aurait dans ce groupe-là, sur sa maturité, qui... Alors, l'équipe de France est championne du monde, n'a peut-être pas besoin de maturité, mais ça reste quand même une équipe qui est relativement jeune, on le sait, qui a gagné la Coupe du Monde, c'est la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire en moyenne d'âge.
Et on a longtemps parlé d'un manque de leader et dans cette équipe de France, et avant qu'il soit champion du monde notamment.
Peut-être qu'il aurait pu être ce leader positif maintenant, et avec le talent qu'il a. De toute manière, le constat, il est simple. Si on dit de mettre le meilleur attaquant français dans cette équipe-là, bon, il y a Mbappé évidemment, évidemment qu'il aurait sa place, mais vous savez que c'est... Des fois, on additionne en soustrayant. Et il se trouve que peut-être que Benzema n'était pas utile à cette équipe-là. Voilà. On ne le saura jamais. Moi, je le redis, j'ai toujours un doute sur une attaque comme on l'a décrit tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'on a raté globalement Benzema, mais pas seulement sur les 5 dernières années, quasiment sur 12 ans.
Parce qu'il y aura toujours des regrets. Parce que quand on voit le match, on n'est pas revenu, hein, le match qu'il a fait face à l'Atalanta mercredi, mais c'était magistral. Et d'ailleurs, on a vu Zidane et Modric qui en ont parlé après la rencontre. C'est-à-dire que tous les ballons qu'il touchait, tous, absolument tous, il les bonifiait, soit en marquant un but, soit en décalant un tel, soit en le gardant tout le temps dans le bon esprit, tout le temps dans ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est certain que quand on regarde ça, on se dit « Ah, punaise, quand même, tu mets Benzema en pointe de l'équipe de France et qu'il fait ce match-là. » Après, est-ce que c'est ce match-là et ce profil-là qu'il faut à cette équipe de France. Là, Maxime, tu as sans doute raison dans ce que tu dis. Mais moi, je reste persuadé que les grands joueurs s'entendent, mais je ne sais pas si ça rendrait l'équipe de France meilleure.
Alors, loin de moi de comparer Benzema à Ben Yedder, il n'y a rien contre Ben Yedder, mais on voit en équipe de France que quand on met un profil un peu différent en pointe, force est de constater que ça marche moins bien. Ben Yedder, il aime bien les petits espaces, c'est un joueur de ballon, ça marche moins bien. Alors, évidemment, Benzema, c'est le calibre bien au-dessus, c'est une évidence, personne n'ira le contraire. Mais voilà, c'est toujours l'histoire d'une sélection et d'une équipe. C'est pas seulement en mettant les meilleurs joueurs ensemble, ça fonctionne pas. Mais le constat est quand même que oui, ça restera un regret parce qu'il a le talent, il a l'intelligence de jeu. Et voilà, on a toujours dit que c'était un peu un 10 dans un corps de 9 finalement. Il a ça pour lui, on sait qu'il peut reculer. Il y aurait peut-être eu quelqu'un de trop avec Antoine Griezmann,
Voilà. Ça, c'est possible. Ainsi. Allez, on va terminer cette émission avec un autre attaquant français, peut-être le deuxième meilleur attaquant français du moment d'ailleurs. Ça va être tout l'objet du débat qui va suivre. Kylian Mbappé, qui a encore marqué les esprits face à Lille en marquant un doublé. En gros, là, Mbappé, ça s'est passé comment ces dernières semaines ? Triplé face à Barcelone, immense. Ensuite, on a eu une défaite face à Nantes où il a été, pour le coup, catastrophique. Entre-temps, il y avait eu un match nul où il avait marqué son pénalty face au FC Barcelone. Et puis, face à Lille, un doublé. Et on va se poser cette question que personnellement, j'ai du mal à trancher. Est-ce que la saison de Kylian Mbappé, pour l'instant, est réussie ? Alors, d'abord, d'un point de vue totalement objectif, donc si on regarde simplement les chiffres, c'est 28 buts cette saison, Kylian Mbappé. C'est un but toutes les 96 minutes. Si on compare à Lewandowski, c'est un but toutes les 76 minutes. Haaland, on les compare beaucoup en ce moment, c'est un but toutes les 82 minutes. Ronaldo, un but toutes les 93 minutes. Messi et Kane, un but toutes les 119 minutes. Donc globalement, il est dans le peloton de tête des meilleurs joueurs européens d'un point de vue strictement statistique. Maxime, est-ce que ça suffit pour dire que la saison de Kylian Mbappé avec le PSG est réussi.
Je pense qu'on aura la réponse définitive, et moi j'aime bien que ce soit comme ça, c'est-à-dire au moment des récompenses collectives, tout simplement. Parce que l'impression que j'ai avec Mbappé, c'est qu'il est à l'image du PSG, tout simplement.
Ah, alors, bah tu m'as volé mon argument. Bah, j'aurais plus rien à dire derrière.
Est-ce que c'est lui qui tire le PSG vers le haut quand il faut, ou lui qui n'arrive pas à le tirer vers le haut quand il faudrait, je ne sais pas, en revanche. Mais il est vrai que tout ça, le PSG est cyclothymique, ça va bien, ça va moins bien. Et bien, quand il y a un grand PSG, comme à Barcelone, c'est parce que Mbappé a été énorme. Et les autres fois, quand ça marche moins bien, on le voit un peu moins. Voilà.
Alors, pas tout le temps, parce que quand il y avait un grand PSG au cœur de l'automne, début d'hiver, c'était plus Neymar. J'allais Mbappé a eu quand même un énorme creux. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, t'inquiète pas. Bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Neymar est plus à même. Alors, lui, c'est l'intermittent parce qu'il est blessé, il joue la moitié des matchs. Mais qu'il est plus à même à tirer le PSG vers le haut quand il faut et sur ses gestes, alors que Mbappé s'inscrit plus dans ce collectif-là. Il est plus dans la finalité. Finalement, ça ressemble aussi à ce qu'ils sont sur le terrain. Il y en a un qui est plus à la construction et qui va être le point de départ, et l'autre qui va être plus à la fin. Donc, je pense qu'en effet, la saison de Mbappé se jaugera aussi à l'aune des accomplissements collectifs du PSG. Mais ça pose la question aussi de ce qu'il a toujours dit, enfin, de ce qu'il a toujours dit depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'il veut des responsabilités. Il les a, il marque en championnat. Et j'ai envie de dire, c'est un peu normal quand même qu'au niveau de la... Ce qui n'est pas normal, c'est quand il met des triplés en Ligue des Champions. Et là, c'est exceptionnel. Qui marque en championnat de France, oui, c'est la moindre des choses. Maintenant, c'est ça. On a envie qu'il pèse plus sur les événements du PSG, comme il l'a fait à Barcelone, mais ça, sur une forme de régularité plus marquée.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en retient de la saison de Mbappé ? On retient son triplé à Barcelone, peut-être son doublé face à Başakşehir en Ligue des Champions, mine de rien. Mais sinon, il y a eu un but face à l'OM et le doublé face à Lille. Mais dans les grandes affiches, c'est à peu près tout. Et c'est ce que tu dis, c'est l'exacte courbe du Paris Saint-Germain. Il faut se souvenir de son trou d'air, comme je disais, en décembre-janvier, de son automne maussade aussi en bleu. Hein, mine de rien, il ne fait pas un grand automne. Mais tout ça, ça s'explique quand même, Maxime. C'est qu'il n'a pas de préparation, Mbappé, quand même. Il n'a pas de préparation. Il démarre sa saison en se faisant défoncer la cheville en finale de la Coupe de France par Loïc Perrin. Il traîne ça quand même. Il joue quand même le Final 8. Derrière, il a le Covid. Il est dans une saison quand même assez spéciale. Et rien que de se poser la question aujourd'hui, qu'il y a tout ça, tout le background qu'on ne peut pas ignorer, c'est-à-dire on sait qu'une préparation physique, c'est capital, notamment dans les matchs qui viennent aujourd'hui. On sait que c'est capital. Il ne l'a pas eu. Derrière, il fait une saison quand même à 28 buts avec le PSG. 31, je crois, si on compte ses buts avec l'équipe de France. Et malgré tout, donc ce qu'il place parmi le haut du panier européen, on se pose cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette saison-là, qui conviendrait à 99,99% des joueurs, aujourd'hui, c'est le minimum syndical pour Kylian Mbappé. Ce qui dit tout de lui, en fait. Ça dit absolument tout de lui. Et je te rejoins dans le sens où Neymar, lui, a été là à des moments où le PSG n'était pas là, était complètement absent, et il l'a sorti de l'ornière complètement. J'ai pas encore vu ça tout à fait avec Kylian Mbappé. À Barcelone, par exemple, il met un triplé, c'est lui le finisseur, etc. Mais il y a un excellent Paris Saint-Germain autour de lui. À Manchester, il y a un Paris Saint-Germain médiocre et Neymar le sort tout seul. Donc voilà, ça va être très important de voir ce qui va venir dans les semaines qui viennent. Je ne parle pas que de la Ligue des Champions, que du Bayern, mais aussi de l'Euro, etc. Malgré tout, je me dis que si son niveau minimum, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour sa carrière.
Mais ça correspond aussi au joueur qu'il est, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'aller sortir un club de l'ornière quand ça va moins bien, avec son style de jeu et ce qu'il est, et ses qualités de finisseur, parce qu'il est, entre guillemets, dépendant du reste comme tout buteur. Alors lui, il est peut-être un peu moins dépendant que les autres parce qu'il est très fort, mais ça décrit ça aussi. Et tu l'as dit, il ne faut pas oublier qu'il a une saison qui est compliquée parce que il commence en se faisant péter la cheville, Covid, etc. Et il l'a dit au mois de janvier, il me semble, il disait qu'il n'était pas encore à 100%, que c'était compliqué. Et c'est tout à son honneur de le dire. Et Didier Deschamps, quand il a annoncé la liste pour les matchs de qualif à la Coupe du Monde, a dit « Ah oui, les gars, c'est pas un robot, hein, tout simplement. Bah oui, c'est pas un robot. » Et on oublie toujours qu'il est jeune. Alors je sais qu'il faut toujours qu'il en fasse plus, que c'est Mbappé, que c'est définitivement, j'imagine, un joueur à part. Il fait plus partie des fameux espoirs dont on se dit « Lui, il va faire quelque chose. » Non, lui, il est déjà au-dessus et largement. Oui, et il va faire quelque chose d'énorme. Mais bah voilà, ça fait partie de la construction, comme les trous d'air qu'il a eu en Ligue des Champions. Ça fait partie de tout ça. On parlait tout à l'heure des trous d'air que Benzema a eu en équipe de France. Ça ne l'a pas empêché de faire la carrière qu'il fait et de briller aujourd'hui. Il y en aura sûrement d'autres, mais c'est vrai que la clé pour lui, c'est de peser un peu plus d'être le clutch, j'allais dire, à la Ronaldo. Je ne sais pas s'il a cette qualité-là, mais prenez Ronaldo quand le Real ou la Juve pas cette année, mais était pas très bien, y a Superman qui arrive, voilà. On attend de lui qu'il soit Superman. C'est pas un robot, mais au moins qu'il soit Superman. Mais ça se construira, à mon avis, petit à petit. Et je le maintiens. On jugera vraiment sa saison à l'aune des résultats du PSG. C'est difficile de... Parce que s'il termine meilleur buteur à 35 buts, et que le PSG n'est pas champion de France et pas champion d'Europe, gagne la Coupe de France, je ne sais pas ce qu'on en sortira, tout simplement.
Et merci, Maxime, pour... j'allais dire... Pour tout, en fait, pour tout. Parce que regardez-moi ce sourire. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est dommage parce que vous passez à côté de plein de choses. Du sourire de Maxime, du fait qu'aujourd'hui, il ne se soit pas maquillé. Donc, vous le voyez sans fard. Et je peux vous dire, sa beauté naturelle, c'est quelque chose. En plus, il a perdu des kilos. Donc, il est dans la forme de sa vie, là. Donc, c'est dommage de rater ça. Donc, si vous nous écoutez en podcast, allez faire un petit tour sur eurosport.fr juste pour voir la taille mannequin.
On m'avait pas dit que c'était un podcast, sinon j'aurais pas perdu de kilos.
Bah oui, c'est vrai que ça sert à rien. Alors, il y a des podcasts. Il y a évidemment, vous nous retrouvez aussi sur Facebook. Voilà. Et évidemment, les meilleurs moments de l'émission sur eurosport.fr.
Voilà. Et sur toutes les bonnes et les mêmes. Et je le dis, les bonnes et les mauvaises plateformes de podcasts. On est censé être partout.
Donc, alors, justement, les mauvaises, c'est lesquelles, Maxime?
Là, tu regardes lundi, on est retiré du truc, tu vois.
Bah oui, non, c'est pas possible.
Non, mais c'est important. Mettez des étoiles. Abonnez-vous parce que vous récupérez l'épisode suivant. Puis les étoiles, ça nous permet de progresser et
oui, c'est vrai, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous,
et
c'est vrai,
t'as raison.
Ouais, non, mais abonnez-vous, là, c'est un petit plus ou je sais pas quoi, abonnez-vous à
Obsessed Stream. Un petit bouton claque, abonné.
Ouais, exactement. Merci à tous, merci à Adrien derrière la caméra. Alors, autant Maxime, je sais pourquoi je te remercie. Autant Adrien, je sais pas trop pourquoi. Et merci à Quentin pour les bisous.
Et alors, vous le voyez pas, alors là, en plus, parce que c'est le podcast et que vous ne verrez pas sa vidéo, mais là, il a commencé la journée en pull, je crois. Il avait une chemise. Là, il est en t-shirt. Et je pense que dans un quart d'heure, il est en slip. Voilà.
Heureusement qu'on n'a pas une autre émission derrière, parce que sinon, ça se terminerait interdit au moins de 18.
Il fait très, très chaud dans le studio. Ça doit être ça le problème.
Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, venez évidemment sur Eurosport. Il y a notamment les finales de ski alpin ce week-end. On va savoir si Alexis Pinturo a le grand globe, le gros globe ou pas. On attend ça depuis Luc Alphand. On se donne
et vous avez Milan-San Remo demain sur eurosport.fr en intégralité. Donc vous savez où passer votre week-end, vous aurez les deux, vous avez juste à zapper.
Exactement. Bah, merci beaucoup, merci Maxime, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.